troisième et dernière table ronde qui s'intitule Bien commun, service public, le volet social, sociétal comme enjeu d'identité et de reconnaissance pour les opérateurs de réseau. Le titre est long, mais on va un petit peu décortiquer ça au fur et à mesure. Pour cette table, nous avons trois personnes qui sont différents acteurs. Le premier, c'est Thierry Gibert, directeur régional Aquitaine Nord d'Enedis. Le deuxième, qui a un statut intermédiaire quasiment, puisqu'il est à la fois étudiant-chercheur, actuellement en master en droit de l'énergie à la Sorbonne et futur doctorant CIFRE, si je ne me trompe pas. Et donc CIFRE chez Enedis, d'où son statut double. Et pour finir, Stéphane Houllier, au syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, SDEG pour faire un peu plus rapide. Je viens de donner leur intitulé, je pense que ce qui serait plus intéressant, c'est qu'ils se présentent eux-mêmes et qu'ils expliquent non seulement qui ils sont, ce qu'ils font, mais surtout quel rapport ils entretiennent entre bien commun et service public. Ces deux mots, bien commun, service public, c'est deux notions qui parfois ont tendance à être confondues, alors que ce sont deux aspects assez différents. Déjà, dans bien commun, il y a bien, dans service, il y a le mot service, donc on sent qu'il y a du matériel et de l'immatériel. Et dans le commun et dans le public, commun renverrait plus à la communauté, alors que dans le public, plutôt à une dimension plus citoyenne ou un petit peu plus large. Historiquement, il y a pu y avoir ce passage des communs au public. C'est très visible, par exemple, dans le cas de l'éclairage public, d'accord, où l'éclairage public était au début réservé à une rue, alimentée entièrement par les habitants de la rue ou du quartier. Je parle de l'époque des bougies, voire des lanternes. Et à partir du moment où on rentre dans une logique de réseau, la notion de service public a tendu à le remplacer. D'où peut-être cette confusion qu'il peut y avoir aujourd'hui. Du coup, la question, c'est aujourd'hui, comment les opérateurs de réseau, eux, jouent avec ces deux notions? Quelles sont aussi les missions qu'ils ont désormais? Je parle de désormais, puisque depuis la privatisation et le développement de la concurrence au niveau de l'énergie, de nouvelles missions aussi sont apparues. Donc, je vous laisse la parole. On va commencer par Stéphane Houllier, et puis après, on pourra un petit peu échanger. Pour information, on a décidé d'être dans une structure moins travaillée, mais plus dans une aura de dialogue. Ce qui veut dire que n'hésitez pas, vous, à intervenir sans attendre forcément la fin, d'accord, de l'ensemble des différentes présentations qui vous seront faites. De toute manière, on s'est engagé sur l'honneur, nous, à finir à 17h. Donc, on n'aura pas de temps pour les questions. Vaut mieux les poser au fur et à mesure. Non ? Je vous en prie.
Merci. Merci, madame. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Christophe Bounot de m'avoir associé à ce deuxième anniversaire de la chaire 17 et vous dire que le syndicat départemental est ravi de pouvoir apporter son témoignage à cette notion de service public à laquelle nous sommes très attachés et la notion de bien public également, même si vous avez parlé d'éclairage public et que je ne suis pas la humeur de réverbère du Petit Prince de Saint-Exupéry. Ceci étant dit, comment vous présenter le SDEG? D'abord, vous dire que ce syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, on va plutôt l'appeler syndicat d'énergie, ce sera plus rapide, dans le sens où sa mission originelle, c'était bien d'organiser le service public de la distribution d'électricité, faire en sorte qu'il y ait un maillage du territoire girondin, en l'occurrence une irrigation des communes girondines par le réseau électrique. Nous sommes une collectivité locale, toutes les communes girondines sont adhérentes à ce syndicat, dont l'objectif, comme je vous le disais, premier, originel, est d'organiser ce service public en lien avec un exploitant de réseau, un concessionnaire, qui s'appelle Enedis aujourd'hui, anciennement EDF. Ce concessionnaire, nous avons un contrat de mariage, alors un peu particulier, parce que c'est un contrat de mariage à durée déterminée, mais quand même qui va plus loin que certains mariages, puisqu'il est de 30 ans. Alors, nous avons un contrat de mariage ensemble, où, comme un vieux couple, Enedis a l'exclusivité de l'exploitation du réseau, et l'exploite sous son entière responsabilité, et le syndicat départemental, lui, propriétaire du réseau, donc c'est un bien commun, bien public, on reviendra après dessus, le syndicat départemental veille au bon accomplissement du service public par Enedis. Enedis est un opérateur de service public. À ce titre, Enedis nous verse, on va appeler ça un loyer, une redevance de concession, qui nous permet de fonctionner, de remplir nos missions de service public, et quelque part de co-construire ce réseau, puisque nous avons une maîtrise d'ouvrage partagée. Disons qu'elle est un peu plus à l'avantage d'Enedis, j'en parle souvent, mais en tout cas, Enedis construit le réseau avec le syndicat, le modernise, et fait en sorte qu'on puisse justement réaliser cette transition énergétique que d'aucuns appellent de ses voeux. Qu'est-ce que nous entendons par... Alors, si ce syndicat départemental, juste pour vous le présenter brièvement, au-delà de cette mission originelle, il s'est diversifié à travers le temps, puisque nous nous occupons d'éclairage public, entretien, travaux neufs, mais aussi de gaz, distribution publique de gaz, en tant qu'autorité concédante. Et enfin, nous nous sommes résolument tournés vers la transition énergétique, avec, entre autres, la mobilité propre, les audits énergétiques, le développement des énergies renouvelables par le biais d'une société d'économie mixte qui s'appelle Gironde Énergie. Ceci étant dit, je reviens à cette notion de service public, après j'en aurai terminé. Pour nous, c'est important, car c'est un petit peu, en matière d'énergie, une sorte de ciment. On considère que c'est un vrai service public, l'énergie, parce qu'il y a un intérêt général derrière. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a eu des allusions sur l'atelier précédent, on ne peut pas vivre sans électricité, mais il y a une problématique, c'est le stockage. Donc, il faut qu'il y ait derrière une organisation structurée et surtout une organisation qui soit péréquée. On l'a dit aussi, l'électricité coûte le même prix à Paris qu'en Corrèze. Pour autant, on sait très bien, et le concessionnaire le sait mieux que moi, que ça coûte plus cher d'entretenir un kilomètre de réseau en Corrèze qu'à Paris. Tout au moins, ça rapporte moins. Voilà, ceci étant dit, ce service public, nous veillons à son respect et on sait qu'en face de nous, nous avons, même si on a quelques dissensions par moment, on a un co-contractant qui a cette culture du service public à laquelle nous sommes, je crois, respectivement très attachés.
Bonjour. Merci aux quelques survivants de la salle tout d'abord, et aussi je remercie évidemment les co-coordinateurs de la chaîne 7 pour me donner ce temps de parole, et aussi évidemment Jordan Provo. Du coup, pour rebondir sur la présentation, j'ai une formation d'historien, j'ai fait mon mémoire de recherche sous la direction de monsieur Christophe Bounot. Actuellement, je fais un master 2 droit d'énergie à l'université Panthéon-Sorbonne, et je prépare une future thèse CIFRE qui commencera le 1er juin 2019. Donc, pour faire des points de retour sur la définition du service public, on peut dire que finalement, chaque opérateur, distribution, transport, fourniture, producteur, a des missions de service public, des obligations de service public qui sont évidemment différentes les unes des autres, mais qui peuvent se retrouver aujourd'hui bousculées face à la libéralisation. Je pense que cet aparté est nécessaire et aujourd'hui...
Oui.
Ok, on m'entend bien. Et je pense aussi que c'est important de faire ce petit recul, mettre en évidence aujourd'hui, il y a un consensus sur tous les acteurs de la filière là-dessus, où on est face à un millefeuille juridique depuis 20 ans, un millefeuille politique, bon nombre d'incertitudes, notamment en 2018 où on a beaucoup d'actions, de réactions, ou en 2019 on a aussi des incertitudes multiples, question de marché, le Brexit aussi, on peut avoir des inquiétudes vis-à-vis des interconnexions, on l'a vu, la crise des gilets jaunes qui au départ commence par un ras-le-bol fixe fiscal lié à la taxation des produits pétroliers. Et donc finalement, le consommateur, il se retrouve là-dedans, dans une espèce de millefeuille où tout va très très vite, et où le gestionnaire de réseau, et notamment de distribution, doit faire face à la redéfinition de ses missions de service public. Alors historiquement, il a le savoir-faire, il a les techniques, mais il peut être aussi face et contesté, entre guillemets, par l'apparence de nouveaux acteurs. On pourrait mettre en évidence l'apparence d'urbains décomplexés qui auraient peut-être la volonté de créer leur propre îlot énergétique et de s'affranchir, entre guillemets, du réseau de distribution. Alors, si je parle sous contrôle de Pascal Sokolov qui faisait justement cette conclusion et cette crainte ce vendredi à la Creux. Il a présenté notamment le renouvellement du contrat de concession et le bilan depuis 2017. Et donc voilà, on se retrouve là-dessus. Et pour moi, le service public de l'énergie, donc pour le transporteur et le distributeur, la démission est assez simple, la desserte rationnelle du réseau. Je m'étais noté aussi l'accès, évidemment, pour tous les citoyens à l'énergie. Mais aussi, l'énergie et l'électricité en particulier, elle se distingue du gaz au titre du Code de l'énergie à l'article L121-1, où l'électricité est reconnue comme un produit de première nécessité. Ça a fait l'objet notamment par la suite d'aides, c'était notamment l'ancien TPN qui est aujourd'hui chez l'énergie, où en gros, je cite cet article, il dit que matérialisant le droit à tous de l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité dans les meilleures conditions de sécurité, des coûts, de prix, plus d'efficacité économique, sociale et énergétique. Donc évidemment, la question des coûts, elle est essentielle, et aujourd'hui, on peut dire que, évidemment, la protection du consommateur, elle est de plus en plus contrainte. On est d'accord tous, j'imagine ici, pour dire que la Commission européenne, elle a voulu créer et libéraliser le marché dans un espoir que le consommateur final y trouve une meilleure concurrence. Or, aujourd'hui, on se retrouve face à des tarifs réglementés de vente qui sont hors marché, qui ont été contestés notamment en gaz, mais qui ne sont pas contestés aujourd'hui pour le particulier en électricité sous ce principe. C'est-à-dire que l'électricité est un produit de première nécessité, alors que le gaz, lui, est une énergie évidemment substituable et que je crois qu'il y a un tiers des produits français qui sont actuellement reliés en gaz et qu'il n'y a pas d'obligation là-dessus. Donc pour moi, le bien commun et vraiment la distanciation avec vraiment électricité et gaz, elle prend tout son sens. Et je pense qu'il y a un consensus là-dessus sur tous les acteurs pour mettre en évidence vraiment le caractère vraiment universel du droit à l'électricité.
Merci, Benjamin. D'abord, je voudrais saluer et remercier M. Oulier d'être présent cet après-midi, d'avoir répondu à notre invitation. Et je voudrais également le remercier de la confiance qu'il a témoignée dès le lancement de la chaîne, en acceptant d'y contribuer, en étant l'un des partenaires que j'évoquais ce matin pour faire travailler les étudiants. Je crois qu'ils l'ont apprécié. Et encore une fois, merci pour cet engagement aux côtés de la chaire. Effectivement, le système de la distribution de l'électricité, le réseau public de distribution, est un système régulé à deux niveaux. C'est ça aussi qui fait un peu la spécificité du système français. Il est d'abord régulé au niveau national pour ce qui concerne les prix, avec la commission de régulation de l'énergie, et puis tout un corpus de réglementation. Et puis il est régulé au niveau local par les autorités organisatrices, comme le SDEG en Gironde, qui veillent à ce que nous accomplissons bien notre mission au service des enjeux et des habitants du territoire. Donc le système français, il est, entre guillemets, je dirais, il est pas surrégulé, mais il est bien régulé. Je dirais, il n'y a pas, entre guillemets, de trou dans la raquette. Des fois, on se dit, il faut un peu ce qu'ils veulent, ainsi de suite. Non, on est une entreprise très régulée, très contrôlée, et c'est normal. Et on rend des comptes, tant aux autorités nationales, à la CRE, à la Cour des comptes, mais aussi aux autorités concédantes locales, encore une fois, dans un système parfaitement régulé, me semble-t-il. Monsieur Oulier évoquait également, et je suis entièrement d'accord avec lui, qu'il y a quand même une convergence de vues historique, ancienne, entre la FNCCR et puis EDF et maintenant Enedis, sur cette organisation et sur les deux piliers qui fondent, je crois, la performance et la particularité du système français, c'est-à-dire la solidarité territoriale avec la péréquation, on n'insistera jamais assez. Et également le deuxième pilier qui est quand même l'innovation et la performance économique. Et c'est vrai qu'il y a une obligation réglementaire pour desservir l'électricité partout, mais il peut y avoir des nuances, je veux dire, hein.
Dans la performance opérationnelle d'Enedis, on s'attache à ce que les mêmes services soient desservis en Creuse, en Corrèze, en Lozère, hein, je m'en ai dit à Cévennes, qu'à l'île de Tourny à Bordeaux. Et que si vous voulez un raccordement, voilà, c'est le même prix, c'est le même délai. S'il y a un dépannage, ben, vous allez être dépanné de la même façon. Je serais tenté de dire, peu importe l'organisation en amont, presque peu importe le coût, ça sera fait avec le même niveau de performance. En France, il n'y a pas de diagonale du vide en matière d'électricité ou de trous, de territoire à zone blanche électrique. À partir du moment où vous avez l'électricité, vous avez droit au même service en tout point du territoire avec le barème de tarification du réseau identique. Pour revenir sur la question que vous évoquez, à savoir bien commun et service public, historiquement, les biens communs, ben, c'était tout ce qui constituait le réseau, qui appartient aux collectivités locales, hein, les poteaux, les lignes, l'appareillage, enfin, tout ce qui est bien matériel, je dirais, et tout ça mis à la disposition de services publics, hein, éclairage, chauffage, enfin, bon, beaucoup d'usages, ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a de plus en plus maintenant, en particulier avec le numérique, des biens communs qui ont un caractère un peu immatériel et qui sont un peu l'aspect un peu moderne, hein, de ce service public. Et dans les aspects immatériels, il y a notamment les données. Les données qui sont inhérentes à l'exploitation je dirais, au fonctionnement d'un réseau électrique. Alors, les concepts, hein, évoluent, et même la réglementation évolue actuellement en temps réel. Je pourrais peut-être en profiter pour dire un petit peu quelle est la position d'Enedis à ce sujet. Sachant que, on l'a vu dans la journée, on est pris entre guillemets entre deux paradoxes ou entre deux feux. Le premier, pour les deux feux entre l'utopie et la dystopie, comme l'a évoqué ce matin Cyril Abonnet, le premier qui est un peu le côté utopique, tout le monde veut les données, tout le monde sent bien qu'on peut faire plein de choses avec les données. Quand on discute le renouvellement des contrats de concession, la mise à disposition de données par Enedis est un élément central du nouveau contrat de concession. Et donc, ces données, voilà, tout le monde veut en profiter de façon tout à fait légitime. Et puis, il y a le côté un peu dystopique, hein, qui est un peu le Big Brother de 1984. De dire, ben, attendez, là, on est dans un système qui peut générer de l'inquiétude. Jusqu'où va-t-on? Que fait Enedis de ces données? À qui il les donne? Et comment il les donne? Et à quel prix? Et ainsi de suite. Alors, d'abord, le premier point. Ces données faisant partie, de notre point de vue, du bien commun, leur mise à disposition fait partie de l'émission de base. Donc, on n'a pas à commercer, entre guillemets, avec ces données. Ces données sont mises à disposition, je vais dire gracieusement. Elles sont incluses, leur prix de captation et de traitement est inclus dans le tarif d'utilisation des réseaux, même titre que les panneaux. Toutes ces données ont vocation à être mises sur la table, en tout cas à être rendues publiques via du big data, via des open data ou close data, enfin, je vais évoquer un peu la différence. Pour servir, encore une fois, les collectivités locales qui veulent faire de l'aménagement du territoire, qui veulent faire des études, de la planification énergétique, mis au service des clients qui veulent faire des études, il y en a quand même, hein, ceux que Christelle Assegon a appelé les consommateurs stratèges, il y en a quelques-uns quand même, ils ne sont pas majoritaires, mais il y en a, mis à la disposition des fournisseurs, mis à la disposition de beaucoup de gens qui ont un lien avec le réseau. Donc ça, c'est le premier point. Néanmoins, cette posture de base qui consiste à dire ben, les données, on les met à disposition, il y a néanmoins, non pas des freins, mais des limites, qui sont des limites finalement de régulation, qui sont des réponses à ce qu'on évoquait ce matin, hein, ce caractère un peu dystopique du Big Brother et des éléments un peu inquiétants sur ces aspects-là. Les premières limites, c'est tout ce qui a trait les données personnelles. On ne communiquera pas les données personnelles. C'est une réglementation européenne qui date du 25 mai dernier, le RGPD, Donc ça, on est garant de ça. On ne rendra pas public non plus à qui que ce soit toutes les données qui peuvent perturber le marché de l'électricité, ce qu'on appelle les informations commercialement sensibles. Et puis, nous sommes garants également, en tant que gestionnaire du réseau de distribution, de par la loi, de la sécurité du système électrique. Je rappelle quand même que ça fait moins de 10 ans que dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie a mis une bonne partie du système électrique ukrainien dans le noir, sans bombarder le réseau, hein, simplement en s'attaquant via l'informatique au réseau de distribution ukrainien. Et donc ces systèmes, on sait aujourd'hui que, grosso modo, tous les systèmes électriques sont épiés, surveillés pour ces raisons-là. Et puis le troisième point, enfin le quatrième point, la quatrième limite, c'est ce qu'Enedis considère être son patrimoine matériel, ses biens propres, ses brevets, ses systèmes d'information qui appartiennent à l'entreprise, qui sont des biens propres de l'entreprise. Une notion d'ailleurs qui mérite d'être clarifiée peut-être sur le plan réglementaire, hein, puisque là on voit que la barrière est un peu plus floue. Hein. Voilà. Mais hormis ces limites qui ne sont pas là, encore une fois, pour être un frein à la production de données, toutes ces données ont vocation à être utilisées par les uns et par les autres, soit pour un service public, soit même pour leur business. Hein. Il y a des start-up ou des entreprises plus anciennes qui souhaite récupérer une partie de ces données-là pour promouvoir des nouveaux services, y compris dans le champ marchand et concurrentiel. Voilà. Voilà, très rapidement, un exemple, je pense bien récent, de cette évolution entre bien commun et service public, bien commun, immatériel en particulier.
Je vous remercie. Avant d'enchaîner, du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non ? On enchaîne. Tout à l'heure, Benjamin parlait de l'énergie électrique comme un bien vital, d'accord ? Et du coup, il y avait des questions qui se posaient et que vous avez déjà commencé un peu à effleurer, qui était la question des prix. Et cette question des prix, je voudrais aussi que vous la mettiez en lien avec la question la question de l'identité des différents opérateurs. Je m'explique. Dans les différentes personnes qui sont présentées ici, vous avez dû comprendre que certains représentent des entités assez récentes, tandis que d'autres, à ma droite par exemple, sont des entités qui ont bien une histoire bien plus longue, en tout cas bien plus identifiée. Du coup, comment ces opérateurs et ces acteurs de l'énergie s'identifient les uns par rapport aux autres, éventuellement sans connaître, et parmi les enjeux, à mon avis, qu'il faut aussi mettre en lien, c'est la question des prix. Ce que j'entends par la question des prix, c'est comment la tarification s'organise, et il y a un autre mot que vous avez commencé à employer, c'est vos péréquations. Vous n'avez pas trop développé, mais je pense que là, on a une vraie question et qui est vraiment particulière.
Oui, effectivement, le prix est un enjeu pour tout consommateur, mais c'est un enjeu pour les collectivités, bref, pour toute personne qui appuie sur le bouton pour allumer la lumière. D'ailleurs, en parlant de lumière, il y a une phrase qui me plaît beaucoup, c'est la citation ou la maxime suivante d'une personne qui disait « Quand j'étais petit, j'avais peur de l'obscurité. Aujourd'hui, quand je regarde ma facture d'électricité, j'ai peur de la lumière. » Et c'est un peu vrai, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez une facture d'électricité, c'est un petit peu la jungle des taxes, on ne sait pas, d'un côté il y a un peu de contribution aux charges de services publics, de l'autre il y a de la TVA qui affleure, il y a de la contribution de transport d'électricité, il y a la rémunération du distributeur, du fournisseur, c'est extrêmement compliqué. Les syndicats d'énergie sont vigilants, mais ça ne fait pas partie de nos missions premières, si ce n'est sur ce qu'on appelle le tarif réglementé de vente. Parce que Thierry Gibert y a fait allusion, il y a d'une part le tarif réglementé de vente, mais il y a aussi ces fameux tarifs marché, couverture marché, qui eux sont encore différents, avec des prix qui fluctuent en fonction des cotations. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a changé. Disons qu'on a surfé sur une vague de marché. Et je dirais qu'aujourd'hui, cette vague de marché devient encore plus complexe parce qu'il y a une vraie vague verte qui vient un petit peu complexifier la donne. Puisqu'aujourd'hui, on essaie d'être vertueux. Pour certains, on essaie d'aller acheter de l'énergie dite verte. Vous savez qu'on parle de plus en plus de montage avec des PPA, des Power Purchase Agreement, c'est-à-dire la faculté pour un producteur d'énergie de s'associer à un commercialisateur pour pouvoir se sourcer en énergie verte. Donc vous voyez que ce marché de l'énergie, le prix, tout ça s'en ressent, et c'est vrai que c'est relativement compliqué. Cela dit, les syndicats, comment nous voyons la chose in fine ? On se dit qu'il y a eu des gains, quelque part, pour les collectivités, les consommateurs, des gains d'opportunités avec un prix de marché qui était inférieur aux tarifs réglementés. Pour autant, est-ce que c'est une bonne chose ? C'est la question que nous posons aujourd'hui, parce que, malheureusement, le prix, ça permet d'arriver un petit peu à une certaine sagesse en termes de sobriété énergétique. C'est-à-dire que et plus le prix augmente, plus chacun d'entre nous, on va être vigilant quant à nos pratiques, puisque tout à l'heure on parlait de pratiques énergétiques. Voilà, alors on est très partagé, on a beau avoir 80 ans d'existence sur le prix, c'est pas notre mission première, on regarde ça de loin et on pense qu'une hausse des prix finalement peut avoir un effet vertueux quant aux pratiques du consommateur. Après, effectivement, il y a la précarité énergétique, mais là, Benjamin Jouve y a fait allusion, il y a quand même les chèques énergie qui arrivent, qui sont quand même avec une automaticité qui me paraît bien meilleure que l'ancien tarif première nécessité. Oui, on se pose quelques questions là aussi, pourquoi ce chèque énergie, il est surtout le résultat, je crois, de la contribution des électriciens, plus que des gaziers, des fuelistes et autres, ça c'est aussi une question qu'on peut se poser, sachant qu'ensuite, le chèque énergie peut servir à payer une facture de fuel, par exemple. Donc, voilà, sur le tarif première nécessité, on suit ça en lien aussi avec les CCAS des communes, c'est quelque chose où on est vigilant. Oui, un dernier point quand même sur le prix. Une chose qui est intéressante, c'est que de plus en plus, et ça se fait à la maille des consommateurs comme des collectivités, ce sont ces formules de groupement d'achat d'énergie. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que tout à l'heure, on parlait de consommateurs ou de consommateurs stratèges. Il est évident qu'à travers un regroupement de consommateurs, on peut être beaucoup plus exigeant en termes de clauses contractuelles d'achat d'énergie. Et puis, évidemment, le prix aussi peut être discuté, peut être négocié à la baisse. C'est intéressant. Et pour les collectivités, c'est une façon qu'elles se réapproprient leurs factures, elles se responsabilisent face à la facturation. Donc on y voit un intérêt là aussi pour les collectivités d'être un petit peu consommatrices.
Oui, justement, pour rebondir sur la question des prix. On s'est rendu compte que depuis 20 ans, le régulateur, donc la commission de régulation de l'énergie, a quand même voulu dépolitiser de plus en plus le coût d'électricité. Le coût d'électricité, c'est encore quelque chose d'extrêmement complexe, qui peut être critiqué par différents acteurs, et notamment les fournisseurs alternatifs. Donc les fournisseurs alternatifs, juste, donc ils ont deux manières de se sourcer globalement, si je fais le résumé. Ils se sourcent sur l'énergie nucléaire historique produite par EDF, la REN, donc qui est un taux fixe fixé par la loi NOM de 2010, et ils se sourcent aussi sur le marché gros. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les tarifs réglementés de vente, comme je disais auparavant, ils sont de plus en plus contestés, les professionnels, petit à petit les particuliers, puisque évidemment la Commission européenne dit oui, comme c'est une logique hors marché, eh bien, le consommateur final ne peut pas s'y retrouver, alors que finalement, la logique de la Commission européenne, c'était justement de trouver des prix plus faibles. Et aujourd'hui, on se retrouve aussi face à ce paradoxe-là, c'est-à-dire que la libéralisation du marché a amené beaucoup d'acteurs sur le territoire français, des fournisseurs, énormément, et finalement, on se retrouve aujourd'hui, il y a quand même EDF qui détient encore une fois probablement entre 70 et 80% de la clientèle française, et finalement où les offres à des fournisseurs alternatifs ne sont sont certes la contestabilité des prix est là, puisque les fournisseurs alternatifs proposent en général, que ce soit Total, Enercoop, qui voulait des prix globalement 10 à 15% entre guillemets 10% inférieurs au tarif réglementé de vente, mais enfin, on n'arrive pas à le saisir le consommateur. Alors là aussi, c'est une question. En gaz, les TRV se terminent en 2023. On va se poser la question aussi, est-ce qu'il va y avoir une certaine rente finalement pour Engie? Est-ce que, ok, si on arrête les TRV, est-ce que moi de mon côté, je ne vais pas rester à l'opérateur historique et automatiquement, bah, mon offre de TRV qui passe sur une offre de marché, bah, je resterai forcément sur l'opérateur historique. Donc en fait, il y a encore ces questions-là sur le consommateur et finalement, c'est cette bataille que la Commission européenne s'est donnée finalement de saisir le consommateur et de lui dire oui, tu as la possibilité de payer moins cher ton énergie. Finalement, on n'a toujours pas gagné alors que c'est depuis 2007. Et ça aussi, c'est une vraie question qu'on a abordée tout à l'heure, mais qui aussi affecte au manque de visibilité du secteur globalement. C'est-à-dire qu'il y a une confusion des marques, il y a aussi énormément de mécanismes psychologiques qui font qu'aujourd'hui, le consommateur lambda, eh bien, il reste chez le fournisseur traditionnel. Plusieurs facteurs qu'on a notamment Odalie a abordé, il y a une sociologie très, très importante et très volubile là-dedans. Donc vraiment, il y a ces notions-là où finalement, le consommateur est protégé d'une certaine manière parce qu'il est sûr, il est protégé des aléas du marché puisque les TRV sont des prix fixes annuellement et aussi ils vont d'ailleurs augmenter là, justement par le gouvernement pour la CRE va augmenter ce tarif cet été mais finalement on se retrouve que cette bataille là elle est toujours pas gagnée. Alors là aussi on n'a pas pointé forcément les acteurs la dernière fois. Enfin, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que c'est le rôle du gestionnaire de réseau, quel qu'il soit, d'informer de plus en plus? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit dans ses missions de service public originales du moins. Après, il y a les pouvoirs publics, évidemment, il y a l'État. Et il y a aussi une institution qui est depuis 2006, le médiateur national de l'énergie, qui aussi manque de visibilité. Alors, il manque de visibilité au sein de la chaîne de valeur de l'énergie, mais aussi auprès des concitoyens. Là, encore une fois, enfin, le médiateur national de l'énergie qui est aujourd'hui Jean Gobert, on a cette difficulté-là à se saisir de ça, à se saisir du consommateur, mais il y a quand même des protections. Dit le chèque énergie qui s'étend sous le gouvernement Philippe à 5,8 millions de foyers pour une aide moyenne de 200 euros, même si évidemment on peut critiquer d'une certaine manière aussi ce chèque énergie. Mais il y a des dispositifs qui existent. Est-ce que c'est à l'opérateur d'étendre ça? La question est posée. Et voilà.
Juste avant de passer à Thierry, le médiateur dont tu parles, tu pourrais juste nous faire un point pour nous expliquer de quoi il s'agit?
Le médiateur national de l'énergie, donc institution créée aussi issue de la libération en 2006. Donc en gros, globalement, je caricature, mais le médiateur national de l'énergie, il est là pour apporter de l'information au consommateur, c'est-à-dire il est là pour lui apporter des informations classiques sur ses droits en tant que consommateur, sur sa possibilité de changer de fournisseur. Il a un milieu européen, il a des plateformes, mais aujourd'hui cet acteur-là, il manque de visibilité et pourtant c'est un acteur quand même il avait été pensé et imaginé pour pouvoir compléter les missions des gestionnaires de réseau.
Concernant les prix, ce que j'ai envie de dire, c'est que le prix de l'énergie est un élément politique. C'est clairement un élément politique. Au 18e ou 19e siècle, c'était le prix du pain qui était un élément politique, parce qu'effectivement, à cette époque-là, ce qui était vital, c'est de se nourrir. Un peu moins au XXe siècle, un peu moins à la fin du XIXe. Et ce qui est vital aujourd'hui, c'est de disposer de l'électricité pour faire toutes les activités qui ont été évoquées tout à l'heure. Parce que vivre sans électricité, ça change considérablement les choses. Et donc cette dimension politique, c'est un peu paradoxal parce que quand on décide d'ouvrir le marché, de libérer le marché, ça veut dire que normalement c'est les lois du marché qui s'appliquent et pas tellement une régulation et une dimension politique. C'est ça qui est un peu paradoxal. Et quand on regarde aujourd'hui le prix de... Quand on regarde aujourd'hui le prix de l'énergie, c'est 3/4. Un premier tiers, ce sont des taxes. Et des impôts, oui, les taxes. Donc là, les taxes, ben, c'est quand même l'État ou la représentation nationale qui les fixe. Donc on est bien dans une dimension politique. Le deuxième tiers, c'est l'acheminement, c'est-à-dire le TURP, le tarif d'utilisation des réseaux, publics d'électricité, c'est-à-dire grosso modo financer les réseaux de transport et de distribution, fixé par la CRE. Donc on peut dire que là aussi, il y a quand même, même s'il y a des mécanismes qui sont liés à nos coûts, hein, mais il y a quand même une dimension un peu politique quand même. Et puis, la part qui est normalement ouverte à la concurrence, il y a encore à peu près aux 3/4 les TRV, l'ordre de grandeur, et même la partie qui est en concurrence, pour produire cette énergie, il n'y a pas de moyens de production aujourd'hui d'énergie en Europe qui se construisent s'il n'y a pas une assurance d'un prix garanti, que ce soit le photovoltaïque, l'éolien, et même pour les centrales au gaz aujourd'hui. Voilà, donc... Je terminerai sur ce paradoxe-là où, face à la libéralisation du marché, la dimension politique est encore très très présente. Juste pour me centrer sur Enedis, le prix, le TURP, bon, qui est fait pour couvrir nos coûts, je l'ai évoqué ce matin, Enedis souhaite également qu'il prenne en compte un nouveau rôle du réseau de distribution, qui est le rôle assurantiel. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les flux d'énergie à amener, mais on a bien vu qu'il y aura quelques moments... Enfin, on a évoqué ce matin la production locale, les communautés locales, ainsi de suite, qui pourraient viser une forme, entre guillemets, d'autonomie ou d'autarcie quelques heures dans la journée, mais le restant de la journée, il faudra bien qu'il y ait une alimentation qui supplée au photovoltaïque, quand il fait nuit, ou les jours où il n'y a pas de vent, hein, pour parler de ces deux moyens de production-là, intermittents et délocalisés. Et ce rôle assurantiel, il ne pourra pas être, qui est indispensable, il ne pourra pas reposer que sur la composante énergie, puisque dans les tarifs, il y a deux composantes, proportionnelles à l'énergie que vous consommez et proportionnelles à la puissance que vous avez souscrite. Et donc, à Enedis, on pense que ce rôle assurantiel devra privilégier, tôt ou tard, la partie fixe, c'est-à-dire la partie qu'on paie au regard de la puissance qui est souscrite par rapport à l'énergie qui est consommée. Voilà ce que je peux dire en quelques mots sur la partie tarif.
Est-ce qu'entre-temps, il y a des questions ? Oui.
Oui, l'une des grandes conséquences de la séparation des activités lors de la libéralisation, ça a été justement de mettre quasiment un mur entre le fournisseur et le distributeur. Donc c'est notamment le code de bonne conduite qui est édité par la CRE. Et justement, ce que tu disais, Benjamin, je pense qu'effectivement, c'est sûrement pas les opérateurs qui vont, c'est même à l'inverse de leur mission et de l'encadrement de la législation aujourd'hui, d'inciter ou d'encourager l'ouverture à la concurrence et le changement de fournisseur. Mais justement, ça me pose des questions sur cette notion de service public et le rapport des usagers vis-à-vis de leur service. Ce qu'on a souligné toute la journée, c'est bien que l'électricité ou l'énergie en général en France depuis la moitié du XXe siècle, c'est devenu de plus en plus banal. Donc les gens s'en préoccupent beaucoup, très peu. Résultat, le seul contact qu'ils avaient avec ce réseau électrique ou avec le gaz, ça a été longtemps le releveur. Et le releveur, au moment où il venait réduire le tarif, faisait aussi la nouvelle plaquette des points, il pouvait analyser la facture, il était un peu un médiateur entre l'entreprise et l'usager dans beaucoup de situations-là, ce qui aujourd'hui est complètement interdit. Un releveur n'aura plus... ne peut pas du tout parler de tarifs, parler de factures, et puis de toute façon, avec les compteurs intelligents, dans quelques années, ils ne seront plus là. Donc justement, je voulais avoir un peu le retour d'Enedis, et puis du point de vue du SNEC, ça m'intéressait aussi. Comment vous avez vu l'évolution des relations, parce que moi j'ai le point de vue des gaziers, mais j'ai le point de vue des électriciens, comment vous avez vu l'évolution entre l'usager et le releveur à ce moment-là? Est-ce que ça a été assez problématique parce que finalement, c'est vraiment un rôle social de la part de l'opérateur de réseau, enfin d'EDF à l'époque, qui a dû disparaître et pour respecter une sorte de neutralité destinée à faciliter l'ouverture à la concurrence.
Il y a plusieurs éléments de ta question qui est très intéressante, qui pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est un peu le rôle du releveur. Le deuxième élément, c'est quoi la proximité avec nos clients pour une entreprise comme Enedis maintenant, où la relation est devenue de plus en plus digitale. En tout cas, est en voie de le devenir. C'est vrai que ce dont on s'est aperçu, et c'est dans le projet 247 là, qu'a présenté Marion, c'est un des points qui est revenu dans les zones rurales en disant effectivement, avec Linky, je ne serai plus dérangé par le releveur, mais moi, ça ne me dérangeait pas d'être dérangé par le releveur. J'étais même content de le voir. Pour avoir un conseil, quoi, mais c'était une forme d'humanisation, de proximité, voilà, hein, comme on est content de voir son facteur de temps en temps, surtout dans les zones rurales. C'est un élément qui, d'une certaine façon, peut parfois contribuer, dans certaines zones rurales, à une acceptabilité plus difficile du compteur Linky, c'est clair. Je dirais la proximité du 21e siècle, ça ne peut plus être celle du 20e siècle pour plein de raisons. Et de la même façon que personne ici ne va acheter sa voiture il y a 20 ou 30 ans, à part les collectionneurs, nous sommes nous aussi obligés d'avoir un service public moderne, avec des outils modernes, qui invente des nouvelles formes de proximité. Alors tout le monde n'est pas encore le consommateur stratège, qui, on l'a vu tout à l'heure, examine sur un écran ses courbes, et ainsi de suite. Mais c'est quand même une tendance de fond. Et c'est quand même à nous d'inventer et d'imaginer quand même une forme de proximité, y compris dans les zones rurales. Nous avons une réponse à apporter parce que moi j'ai en tête ce que disait Stéphane Rosès, qui est l'ancien patron de la Sofres, un sociologue de renom, qui parlait d'Enedis en disant: Enedis, vous êtes à la fois l'esprit français et l'esprit des lieux. Parce qu'en fait, tous les Français ont l'électricité chez eux. Et donc, pour tous les Français, il y a un fil qui nous connecte à eux. Et de temps en temps, mais ce fil, il faut déjà aller le construire au moment du raccordement. Puis il faut l'entretenir, il faut le maintenir. Il y a des visites régulières, peut-être moins fréquentes que la relève. Et il faut qu'on imagine et qu'on invente une relation nouvelle qui ne va plus passer par le releveur. Donc ça, on y travaille. C'est un champ de réflexion. Ce qu'on peut dire quand même à tous les gens des zones rurales, tous les clients des zones rurales, c'est que derrière l'esprit français dont parlait Saint-Rosais, c'est cette notion d'égalité de traitement. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, et je le redis, je le maintiens, cette digitalisation ne passera pas par une France à deux vitesses, ou des services à deux vitesses, ou une transition énergétique à deux vitesses, une pour les urbains et une pour le monde rural. Nous nous attacherons à faire en sorte que tous ces nouveaux services bénéficient à tous, avec des formes vraisemblablement différentes, et que tout le monde y trouve son compte, pour que chacun puisse se reconnaître dans ce service public moderne.
Oui, j'ajouterais juste dans le prolongement de ce que vient de dire Thierry Gibert, c'est que finalement ce qui ressort surtout dans ces dernières phrases, c'est à travers sa mission de service public, Enedis s'oblige à la fois à une neutralité totale vis-à-vis et un principe de non-discrimination vis-à-vis de tous les fournisseurs, l'historique que l'on connaît tous comme les alternatifs, et également cette égalité de traitement des fournisseurs, ça va de soi, mais aussi de tous les consommateurs que nous sommes, avec le perpétuel souci de garantir une continuité de service public. Et finalement, Ça peut paraître ringard quand on dit ça, mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un service public modernisé auquel on assiste? Parce que d'un côté, bon, il y a la fourniture. Honnêtement, c'est une marque d'électron. Mais le plus important, c'est d'avoir le constructeur d'autoroute qui permet à toutes les molécules dans le gaz ou les électrons dans l'électricité de circuler et d'arriver jusqu'à ce qu'ils nous d'irriguer tous les consommateurs, qu'ils soient au fin fond de la Lozère ou effectivement boulevard Haussmann à Paris. Et moi, c'est ce qui m'attache, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui intéresse le plus nos structures collectivités locales, c'est d'avoir cette garantie de neutralité, d'équité, d'égalité, de continuité. Ce ne sont pas des mots creux au quotidien, et on le vit ça très fortement ben, quand on essuie un aléa climatique. Hein. Le fournisseur, très honnêtement, les élus locaux, ils s'en fichent un peu. Les élus locaux, ils regardent une chose, c'est Enedis. Où est Enedis? Quand est-ce que le camion bleu va arriver pour me garantir ma continuité de service public? Voilà ce que je voulais.
Il nous reste un quart d'heure et nous avions d'autres thèmes. Donc du coup, nous avons essayé de les fusionner peut-être pour essayer de gagner du temps. En fait, nous avons identifié deux principaux thèmes que nous voulions voir. Et ce sont deux thèmes dont les mots ont déjà été cités à la fois là dans la table ronde et dans la table ronde précédente. Le premier thème, c'est tout ce qui est lié à la transition énergétique et sur les différents enjeux d'échelle. Savoir, il y a un enjeu global, mais bien souvent, en fait, l'action se fait au niveau local. Donc ça sera réfléchir sur ces différents enjeux, comment localement on peut contribuer, réfléchir à faire avancer cette transition énergétique. Et la deuxième question qui a été beaucoup travaillée aussi aujourd'hui, c'est la question des citoyens. Les citoyens qui sont à la fois consommateurs, mais parfois aussi producteurs, qui du coup peuvent aussi s'affirmer comme légitimes pour traiter des questions de service public, puisqu'après tout c'est censé être pour eux qu'on fait tout ça. Et du coup, à travers ça, d'autres questions qui pourraient intervenir, comme la question des solidarités territoriales, à mon avis, qui seraient aussi des thèmes à traiter et qui font partie de ces deux enjeux. Alors, vous répondez à un thème ou l'autre, qu'importe, éventuellement les deux, si c'est extrêmement rapide, mais on a une contrainte de temps.
Oui, très rapidement, nous, l'organisation des territoires à travers l'énergie, on la vit comme cela. On la vit en se disant que la transition énergétique, comme la distribution dont on vient de parler, ça ne doit pas être un produit de luxe. Ça ne doit pas être circonscrit aux seuls urbains, à ce qu'on appelle les écolo-bobos. Pour nous, la transition énergétique, elle a lieu tout autant dans les zones rurales qu'urbaines. Et d'ailleurs, si on va plus loin, on pense réellement qu'il y a une véritable complémentarité des territoires. Complémentarité des territoires, parce qu'aujourd'hui, les centrales photovoltaïques, c'est pas place des quinconces hein, qu'on va faire. Disons que le grenier à électrons ou à molécules, il est davantage dans le pourtour de l'agglomération bordelaise et même dans l'est libournais, dans le sud Gironde. Il y a beaucoup plus de potentiel de production d'énergie renouvelable que sur la métropole. La métropole, c'est un nœud de consommation. Pour évacuer cette production, on sait très bien qu'on a besoin de la métropole. Donc c'est pour ça que nous insistons beaucoup sur cette complémentarité et sur, je dirais, une organisation de l'énergie et de la transition énergétique à une maille territoriale pertinente. Moi, ça me fait toujours peur quand j'entends parler d'autonomie locale, de communauté locale de l'énergie, parce que bon, il y a la logique réseau que défend Thierry Gilbert et que je défends aussi. Mais il y a aussi cet isolationnisme, je n'y crois pas trop. Il me semble que ce qui est le plus beau, c'est quand même l'échange. Vous avez parlé de chaîne, ben, c'est vrai qu'une chaîne entre des consommateurs, des producteurs, ça a beaucoup plus d'allure que de se recroqueviller sur soi-même, se recroqueviller, c'est pas bon au niveau énergétique, ça va devenir sclérosant à terme. Donc, nous, le service public moderne que nous défendons, c'est un service public d'échange, je dirais, de libre échange énergétique.
Oui, je vais me permettre de rebondir justement sur ça, et on en parlait aussi ce matin sur le quatrième paquet qui évoque ces communautés citoyennes de l'énergie. Donc là, je fais référence directement à l'article de Michel Cardovet, il y a aussi un consensus de tous les acteurs de la filière là-dessus. sur le risque un petit peu contre-intuitif de ça, de l'autonomisation, de l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'il y aurait un risque finalement qui se retrouverait sur le turp indubitablement, où les gens qui, ma collectivité qui se dit aujourd'hui je mets mon éolienne, je mets mon panneau solaire, je suis capable de m'affranchir du réseau d'électricité, bon, ça relève de l'ineptie bien évidemment, puisqu'on l'a bien vu, les consommations vis-à-vis de l'énergie renouvelable ne correspondent pas vis-à-vis du pic, mais il peut y avoir cette inquiétude là, comme on l'a dit ce matin, de cette forme d'îlot énergétique ou d'acteurs qui se prétendraient pouvoir s'affranchir de ce réseau assurantiel. Donc voilà, juste pour rebondir là-dessus, la péréquation évidemment serait entachée de ça. Le TURP aussi, il augmenterait évidemment, enfin le tarif d'utilisation au réseau public d'électricité. Donc voilà, il y a toujours ce risque-là. Et ce risque-là, il a été vraiment identifié, où voilà, le quatrième paquet énergétique a fait sortir cette thématique-là. Beaucoup ont fait d'articles là-dessus, sur ça, du coup, il y a une inquiétude qui est bien manifeste, qui est évidemment intelligible, puisqu'elle est historiquement contestée, alors qu'on est face à la péréquation, quelque chose, un processus historique bien ancré nationalement et bien français.
Sur ce point-là, je partage complètement ce qu'a dit Stéphane Houllier et Benjamin. De toute façon, et pendant encore longtemps, les villes auront besoin des campagnes, et inversement. Pour Enedis, la PPE est sortie, il y a quelques semaines maintenant, et elle réaffirme le rôle clé du réseau pour réussir la transition énergétique. Il n'y aura pas de réussite de la transition énergétique s'il n'y a pas des réseaux à la hauteur de l'enjeu. On a bien l'intention d'assumer avec les collectivités locales et les AODE et les syndicats d'électricité cette mission d'envergure. Les réseaux futurs, les smart grids, c'est quoi? Je dirais les réseaux futurs, les smart grids, c'est des réseaux qui vont apporter des solutions qui vont rendre possible un certain nombre d'enjeux qui sont essentiels à la réussite de la transition énergétique. Alors ces enjeux, c'est quoi? C'est le développement des énergies renouvelables, qui va d'ailleurs se faire dans les zones rurales, plutôt un peu urbain, mais beaucoup rural, de raccordement, bien sûr, mais surtout faire fonctionner le réseau. Je l'ai évoqué ce matin, on m'a posé la question, mais comment vous allez faire fonctionner le réseau quand il y aura 1 million, 1,5 million, 2 millions d'installations photovoltaïques ou éoliennes sur le territoire français? Ce qui est à peu près certain, à une échéance que j'ignore, mais pas lointaine, 10 ans, 15 ans, l'ensemble de la production décentralisée photovoltaïque et éolien, et ça se produira vraisemblablement entre le 14 juillet et le 15 août, quelques heures par jour, correspondra à la consommation des Français. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin, pendant ces quelques heures-là, de faire appel aux moyens centralisés, centrales nucléaires, centrales gaz ou barrages. Pour autant, il faudra assurer le fonctionnement du réseau pendant ces quelques heures. C'est-à-dire faire en sorte quand même que la tension soit stabilisée. Enfin, je ne vais pas faire de la technique, mais quand même, ça, les lois de l'électricité, c'est des lois de la nature, hein, c'est des lois de la physique. Hein, ça ne se vote pas au Parlement, hein, ça marche ou ça ne marche pas. Hein. Donc il va falloir quand même que la fréquence reste au 50 Hz, il va falloir que les tensions restent normalisées. Et cette supervision du réseau qui était faite jusqu'à présent, surtout par RTE, hein, puisque l'énergie partait des centrales, 400 000 volts, 200 000 volts, 63 000 volts, ainsi de suite, là, ce sera une production très horizontale, très répartie. Eh bien, il faudra regarder le niveau de tension pratiquement, très localement, ville par ville, quartier par quartier, pour voir si on est bien dans les 230 volts. Parce que si ça monte à 280, 270 volts, on va casser du matériel. Et ce rôle de supervision, on aura besoin d'un appareil qui mesure des tensions et des intensités, on aura besoin d'un appareil qui s'appelle Linky, qui permettra, entre autres choses, en plus de tout ce qu'on a vu ce matin, de faire cette supervision du réseau. Donc il n'y aura pas de développement à très très grande échelle de moyens de production décentralisés si on ne dispose pas de capteurs de tension, qui seront les compteurs, à grande échelle. Entre nouveautés, les usages. L'usage qui va vraisemblablement se développer, c'est la mobilité électrique, les véhicules électriques. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 000 en France véhicules électriques ou hybrides. L'objectif est d'arriver à 1,2 million d'ici 2023, puis 2 millions, jusqu'à 8, 9 millions de véhicules électriques en 2035-2040. Je ne sais pas si ces pronostics seront la réalité. Ce que je sais, c'est que ça va immanquablement se développer. Et là, effectivement, permettre le raccordement des véhicules électriques à travers des IRV, des bornes de recharge, des bornes publiques. Hein. Il y en a aujourd'hui 25 000, il faudra passer à plus de 100 000. Sur la Gironde, le SDEC s'est beaucoup investi pour cette mission-là. Et on a travaillé ensemble, d'ailleurs, dans une excellente coopération, hein, dont se félicitent d'ailleurs beaucoup d'élus. Donc il va falloir développer ces bornes, et puis aussi il va falloir, là aussi, réguler. Parce que si tout le monde branche sa voiture, s'il y a 9 millions de véhicules qui se raccordent tous les soirs à 9 heures, ça ne va pas le faire. 9 heures du soir, ça ne va pas le faire. Par contre, si c'est bien géré, si c'est bien supervisé, et que si c'est étalé un peu entre le début de soirée et le début de matinée, ça ne posera zéro souci. Voilà deux exemples où s'il n'y a pas un réseau performant, structuré, organisé, eh bien on ne pourra pas aller à des 30, 40, 50% d'énergie renouvelable en France ou au-delà. Et si on n'est pas pareil, si on n'a pas un réseau structuré, organisé, bien piloté, moderne, on ne pourra pas avoir 2, 3, 4, 5, 10 millions de véhicules électriques qui roulent sans aucun problème et que charger sa voiture reste aussi simple que d'allumer un interrupteur quand on rentre chez soi. Voilà deux exemples, il y en a d'autres sur la MDE, mais le temps nous compte et j'ai promis à tout le monde qu'on finirait à 17h, donc je vais ne pas en dire davantage.
Et il nous reste 3 minutes avant 17h, nous sommes parfaitement dans les temps. Est-ce qu'il y a une question, alors une mini-question, voire une demi-question ? Non, ce qui est parfait. Juste pour conclure un peu notre table ronde, faire remarquer qu'on passe quand même d'une situation où on a un monopole avec un service public qui est assumé et avec un discours qui l'accompagne, à une situation où maintenant il y a de la concurrence, mais en fait il y a encore des questions de service public qui sont maintenues. Et je pense que cette transition, c'est une transition qui réussit et qui peut être tout à fait saluée. Et ça, c'est quand même un des grands points, je pense, qu'aura mis en valeur cette table ronde. Et la deuxième chose que je voudrais mettre en avant aussi liée à cette table ronde, c'est finalement on a aussi une spécificité française qu'on ne retrouve pas partout, enfin qui peut peut-être nous paraître évidente parce qu'on la vit au quotidien et parfois depuis bien longtemps, mais en réalité il faut saluer cette notion de service public vraiment spécifique à la France. Et ça j'en ai, c'est pas historique et c'est pas scientifique, mais chouette.
Ce que je voulais dire, c'est que le seul service public, c'est pas un handicap, pas une tare. Hein, c'est pas des semaines de plomb pour aller plus vite. L'écosystème français est performant. Il est performant économiquement. Ce qui est un paradoxe, parce que le territoire français n'est pas le plus adapté pour réduire les coûts de distribution d'énergie. Hein, on a une faible densité de population par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Hollande, enfin. On a beaucoup de zones côtières, les tempêtes elles arrivent quand même plutôt par l'Atlantique, hein, on est bien placé pour le savoir ici. On a beaucoup de zones de montagne, hein, qui sont quand même des endroits où distribuer l'énergie ça coûte. Et malgré ça, on arrive à être parmi les coûts les plus performants d'Europe et du monde, avec des services qui font référence. Et autour d'Enedis et autour des collectivités locales et des syndicats d'électricité, il y a un écosystème, comme on dit maintenant, avec des industriels puissants, hein, qui ont bâti leur puissance industrielle également sur la capacité d'innovation d'EDF à l'époque, hein, les fournisseurs de matériel, ainsi de suite, hein, historiques, hein, qui sont devenus parmi les leaders mondiaux. Et encore aujourd'hui, on parle de Linky, un consortium mené par Enedis et Schneider Electric, hein, a enlevé un marché de pose de 5 millions de compteurs communicants en Inde, hein, il y a quelques semaines et quelques mois de ça. Alors 5 millions, ça peut paraître c'est significatif. Pour l'Inde, c'est presque un porc, hein, c'est presque une expérimentation, hein, vu la taille du marché. Mais ça veut dire qu'on continue. Hein, le système français, c'est, encore une fois, c'est pas une tare, c'est pas un handicap. C'est quelque chose qui est moderne, qui est innovant et qui est performant. à la fois pour l'ensemble de la collectivité, pour les consommateurs français, mais également pour les industriels basés en France.
Je vous propose de clore ici la table ronde. Merci. Mmh.